Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
TAC 2021 à Abidjan, le conseil conjoint du gouvernement s'est tenu à ce matin, présidé par les deux premiers ministres. Les travaux ont porté sur les domaines du transport, de l'énergie et de la culture. Pour ne citer que ceci, on en parle avec un de nos envoyés spéciaux à Abidjan, début d'édition. Insécurité à Pama et Madjouari, des dizaines de terroristes ont été neutralisés lors d'une opération baptisée Épervier. Le bilan dressé par l'armée fait aussi cas d'un soldat à décédé. Et puis près de 60 migrants cherchant à rallier l'Europe sont morts noyés lundi dans un naufrage au large de la Libye, parmi les victimes des femmes et des enfants. Bonjour et bienvenue à cette édition. La 9e conférence du traité d'amitié de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina a entamé sa dernière étape ce matin avec le Conseil conjoint de gouvernement. Une rencontre qui vient de prendre fin. Les deux premiers ministres ont ouvert la rencontre sous le signe du renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Transport, énergie, culture sont quelques sujets abordés au cours de cette rencontre. Pour en parler, nous sommes en ligne avec un de nos envoyés spéciaux à Abidjan. Abdoul Fattah Tiamtoré, bonjour.
Oui, bonjour Denis et bonjour Omega.
Alors, on le disait donc, le Conseil conjoint de gouvernement qui vient donc de prendre fin. Que peut-on déjà retenir des discours prononcés par les deux premiers ministres?
En effet, le Conseil conjoint de gouvernement vient de prendre fin à l'instant même. Pour le premier ministre burkinabé, le TAC, le traité d'amitié et de coopération, constitue un levier important de la réalisation des aspirations profondes des peuples burkinabés et ivoiriens. C'est également ce qu'a laissé entendre son homologue ivoirien Patrick Hachi, qui a félicité après Christophe Dabiré les deux États et les deux délégations pour la tenue effective et en présentiel, il faut le préciser, des présentes assises malgré le contexte, un contexte sanitaire qui a empêché la tenue de l'événement l'année dernière en 2020, un contexte sécuritaire également difficile, surtout maintenant avec les attaques terroristes à la frontière ivoiro-burkinabé. Patrick Hachi appelle les deux pays à poursuivre leurs actions en vue de contenir, de riposter, de réduire et d'éradiquer l'influence néfaste de ces fléaux, surtout en mutualisant les renseignements. Il a insisté sur ce point. Et Christophe Dabiré a également salué l'organisation d'opérations conjointes entre les deux pays dans la zone des frontières et même avec le Mali également dans cette zone-là, avec bien sûr des acquis que les deux parties ont reconnus ce matin. Le phénomène perdure et prend de l'ampleur et les deux gouvernements s'engagent donc à travailler davantage, à renverser la tendance. À propos de la COVID-19, le Premier ministre ivoirien félicite les deux États pour l'option de la vaccination à grande échelle pour juguler la maladie en vue, je le cite, de leur éviter une surmortalité liée à la maladie. Et pour le Premier ministre burkinabé, les mesures prises contre la maladie ont freiné quand même considérablement la circulation des personnes et des biens, l'organisation d'activités culturelles et artistiques favorisant le rapprochement donc entre les deux peuples. Et aujourd'hui encore, dit-il, dans un contexte sanitaire incertain et face aux difficultés liées à cette fermeture des frontières, c'est l'une des mesures justement, la question de leur réouverture se pose avec acuité, a-t-il dit. Et vous le savez déjà, le Burkina a proposé que la question justement de la réouverture des frontières soit examinée et le ministre des Transports burkinabé a appuyé la proposition des experts.
Alors Abdoul Fattah, donc cette rencontre a pris fin, une rencontre pour la première fois qui s'est tenue sans les deux présidents, donc ivoiriens et burkinabé, faut-il le souligner?
C'est bien une première puisque depuis 2008, sous le régime de Blaise Compaoré et celui de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le sommet des chefs d'État s'est toujours tenu en même temps que les autres activités du traité d'amitié et de coopération. Cette fois-ci, exceptionnellement, les deux chefs d'État ne sont pas présents à Abidjan pendant que ces travaux se déroulent. C'est donc le Conseil de gouvernement qui marque la fin de cette première étape, il faut le dire, de ces travaux-là, puisque le sommet des chefs d'État est annoncé ultérieurement. On n'a pas encore de date. On estime en tout cas que le sommet pourra se tenir en temps opportun et que certaines décisions hautement politiques pourraient être prises à ce niveau-là, au niveau donc des chefs d'État. Et justement, Denis Zungranarok Kabore n'est pas à Abidjan en ce moment, mais Christophe Davié, à l'issue de ce conseil conjoint du gouvernement, a pris la direction de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, où il va rencontrer le président ivoirien Alassane Ouattara, un entretien qui aura lieu dans quelques instants donc.
Merci Abdoul Fattah Tiemtori, je rappelle donc un de nos envoyés spéciaux à Abidjan en Côte d'Ivoire. Restons en Côte d'Ivoire où une rencontre est annoncée cet après-midi entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, une première depuis le face-à-face de la présidentielle de 2010 qui avait débouché sur une grave crise post-électorale. Jusqu'à présent, les deux hommes ne s'étaient parlé que discrètement au téléphone au début de ce mois. Cette rencontre est considérée comme une étape essentielle au processus de réconciliation nationale. Et puis, je vous en parlais en titre, près de 60 migrants cherchant à rallier l'Europe, parmi lesquels des femmes et des enfants sont morts noyés lundi dans un naufrage au large de la Libye. Un nouveau drame rapporté par l'OIM. Actualité nationale à présent, la population de Madjouari fait toujours face aux attaques des terroristes. Dimanche, trois personnes ont été enlevées dans la localité par des hommes armés non identifiés. Il s'agit d'un homme âgé d'au moins 110 ans et de deux jeunes de 30 ans. Lamine Traoré pour des précisions.
Les trois civils enlevés dimanche à Madjouari par des hommes armés non identifiés sont un vieux d'au moins 70 ans et deux jeunes de moins de 30 ans. A confié lundi à Omega, une autorité locale soulignant que dans cette localité du pays, les populations sont prises au piège. Ces personnes ont fui Madjouari pour Tambarga, au moins 2 km entre les deux localités. Elles ont voulu repartir à Madjouari pour récupérer leurs affaires restantes et ne sont plus jamais arrivées, a précisé la source. La situation sécuritaire est très préoccupante. Impossible de faire aujourd'hui 500 mètres sans être enlevé ou risquer d'être abattu par des hommes armés qui contrôlent presque tout aujourd'hui, a dit l'autorité locale, très préoccupée par la situation dans la zone. On était content quand on a entendu parler d'une opération militaire à Madjouari et dans le reste de la zone. Cette opération n'est jamais arrivée. Nous n'avons rien vu. Les populations sont prises au piège à Madjouari, a dit la source. Que l'État veille sur nous. Aujourd'hui, les gens pleurent. Les habitants manquent de tout. Il n'y a rien, a-t-elle lancé en guise d'appel.
Merci à Lamine Traoré. Pendant ce temps, une opération de l'armée est menée dans la zone. C'est ce qu'affirme le point hebdomadaire de l'armée. Selon ce point publié hier, cette opération d'envergure dénommée Épervier a permis de débusquer et neutraliser des dizaines de terroristes. Une importante quantité d'armements et de munitions ont été saisies, des moyens de communication et de transmission, des engins explosifs, du matériel de campement et un important nombre de moyens roulants ont également été récupérés. Au cours de l'opération, selon l'état-major général des armées, un soldat à moto a été victime d'un engin improvisé lors d'une mission d'infiltration le 21 juillet dernier. Des opérations de ratissage se poursuivent dans la zone afin de retrouver d'éventuels éléments résiduels. Direction Kossiam, où le président du FASO a reçu hier en audience une délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par son président Newton Ahmed Barry. La délégation est venue à remettre à Roch Kabore le rapport final des élections présidentielles et législatives du 22 novembre dernier. De ce rapport, on retient que malgré le vote de la diaspora et du contexte sanitaire et sécuritaire, les élections de 2020 ont coûté moins cher que celles de 2015. Le point avec Chalda.
C'est un exercice de redevabilité pour Newton Ahmed Barry qui a espéré en vain un second bail à la tête de la CENI. Dans son rapport, le président sortant de la CENI soulève un coin du voile sur des irrégularités qui ont entaché le déroulement du double scrutin de novembre 2020. Newton Ahmed Barry, président sortant de la CENI.
Nous sommes revenus sur l'ensemble des péripéties qui ont accompagné évidemment les élections du 22 novembre. L'organisation qui n'a pas été facile dans le cadre d'un contexte à la fois sécuritaire et Covid. Ensuite, la question évidemment de l'instabilité législative du code électoral qui a été changé 3 fois en moins de 3 ans, dont 2 fois la même année, et puis dont la dernière a eu lieu à moins de 70 jours de l'élection, ce qui n'a pas facilité tous les éléments.
Des élections moins chères malgré le vote des Burkinabés de l'étranger, malgré la situation sécuritaire et sanitaire, Newton Ahmed Barry se félicite du coût qui tourne autour de 21 milliards de francs CFA.
Malgré le contexte de la COVID, malgré le contexte de l'insécurité, malgré le fait que les Burkinabés de l'étranger ont voté pour la première fois, notre budget cette année, pour l'opération électorale seulement, non compris évidemment l'enrôlement des électeurs, est autour de 21 milliards. C'est-à-dire que nous avons fait moins cher que l'élection de 2015 en matière évidemment du coût. En dehors du Rwanda, où le coût électeur est de 1 dollar, nous sommes parmi les pays qui organisent les élections les moins chères en Afrique.
Tout compte, les rédacteurs du rapport ont fait des recommandations pour faciliter les processus électoraux à venir. Parmi ces recommandations, on note la réduction du coût électoral et la stabilité législative du code électoral qui a été modifié 3 fois en moins de 3 ans.
La revue de presse.
La revue de ce mardi nous est présentée par Alenta Ouidraogo.
À la une de l'actualité ce mardi, le rapport des activités de Newton Ahmed Barry à la CENI. Newton au rapport avant de plier bagages, titre à sa une l'Observateur Palga. Aujourd'hui au Faso, quant à lui, précise le contenu du rapport. D'un coût de 21 milliards de francs CFA, c'est l'une des élections les moins chères d'Afrique. Et le quotidien de compléter que Newton Ahmed Barry regrette l'instabilité législative du code électoral. Autre sujet à la une, la lutte contre le terrorisme. L'Observateur Palga titre à sa une « Opération d'envergure pour sécuriser Madjouari ». Et aujourd'hui, au Faso de préciser, le bilan de cette opération épervier. Plusieurs dizaines de terroristes neutralisés à Pama et Madjouari. Dans les colonnes du journal Le Quotidien, notre confrère consacre son édito à la 9e édition du TAC, le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina. De l'avis de notre confrère, il faut quitter les salles de conférence pour le terrain. Le constat sur le terrain convainc que le TAC jusque-là est plus théorique que pratique. Les grands chantiers qui devraient renforcer les liens entre les deux pays et booster leur économie piétinent toujours. Et pour y remédier, le quotidien propose qu'au sorti de ce 9e TAC, les deux pays prennent la résolution formelle avec un calendrier précis de mise en œuvre de grands chantiers et des questions prioritaires. L'instabilité en Tunisie a aussi nourri les éditos de nos confrères. Pour notre confrère aujourd'hui au Faso, Kaïs Saïed fait face à une crise tricornue entre autres crises institutionnelles, politiques et la pandémie de Covid-19. De quoi noircir l'ardoise d'un président qui avait pourtant promis de faire les choses autrement. Pour notre confrère Sidoya, quant à lui, la décision du chef de l'État de démettre le Premier ministre, son gouvernement et de suspendre le Parlement était plus que nécessaire. Il aura fallu prendre une décision qui pourra permettre de redresser la barque qui tangue depuis belle lurette. Le journal recommande toutefois le dialogue avec le parti Ennahda afin de faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation tunisienne.
C'était l'invité de la rédaction.
Adama Konaté a assuré la mise en onde Denise Ougrana pour la présentation. Vous l'aurez compris, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité.
Radio Omega, l'info en direct.